40 millions. C'est le nombre d'unités de pain qui finissent à la poubelle, purement et simplement jetées. Et attention, on ne parle pas d'un chiffre annuel, là.
Non, malheureusement. C'est le nombre de pains jetés chaque jour. C'est complètement effarant.
Chaque jour, oui. C'est une perte financière qui est astronomique, mais c'est surtout un non-sens écologique absolu quand on sait que pour produire toute cette nourriture, il a fallu des milliards de litres d'eau douce, et l'eau douce aujourd'hui, c'est devenu plus précieux que l'or.
Exactement. Surtout dans des régions soumises à un stress hydrique permanent.
Alors, la grande question, c'est comment une nation moderne gère-t-elle cette urgence absolue tout en planifiant en même temps des réacteurs nucléaires de pointe, et en gérant des grèves qui paralysent littéralement sa société civile.
Eh bien, c'est exactement l'enjeu du dossier que nous allons analyser. Je suis ravie d'être là pour décortiquer tout ça.
D'accord, décortiquons cela. Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Notre mission aujourd'hui, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est de plonger dans les pages de l'édition de mars 2026. C'est le numéro 121 de la revue eWeek qui est produite par l'ODG Média.
Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment un pays en pleine mutation, et on parle du Maroc ici, navigue sur cette ligne de crête qui est quand même assez vertigineuse entre tradition et ultramodernité.
Et pour m'accompagner, j'accueille notre spécialiste. D'ailleurs, j'adore l'ambiance visuelle du décor virtuel que vous avez choisi aujourd'hui. C'est frappant, on a ces panneaux solaires ultra modernes qui s'entremêlent avec des rouages d'horlogerie super complexes.
Pour notre sujet, les rouages, ça représente la mécanique interne qui est parfois un peu grinçante d'une société humaine complexe qui essaie de se synchroniser. Et à côté de ça, les panneaux solaires incarnent cette projection inéluctable vers la haute technologie et l'avenir énergétique. Et il y a vraiment une quantité phénoménale d'informations à synthétiser dans ce numéro de mars 2026.
On y va alors. Et je préviens notre audience, après les prochaines minutes, il sera absolument impossible de regarder la corbeille à pain sur la table de la même manière. Parce que, avant de parler de futur ou technologie, le magazine nous force d'abord à regarder ce qui finit dans nos poubelles.
Et ce n'est pas beau à voir. Le rapport du Conseil économique, social et environnemental, le fameux CESE, dresse un constat qui est, disons-le, accablant sur le gaspillage alimentaire.
Accablant, le mot est faible.
Le terme est même très justifié, en fait, surtout quand on le place dans le contexte du manque d'eau historique de la région. Le rapport pose des chiffres précis. Pour 2022, on parle de 4,2 millions de tonnes de nourriture jetées.
C'est vertigineux. 4,2 millions de tonnes.
Pour donner une idée plus concrète, ça représente 113 kilos par habitant et par an. Et c'est en forte hausse, puisqu'on était à seulement 91 kilos l'année d'avant. Donc la trajectoire est mauvaise.
Ah ouais, la pente est raide. Mais revenons à ce chiffre choc sur le pain. Les fameux 40 millions d'unités jetées au quotidien. Il faut se rappeler que le blé, c'est une denrée massivement importée et qui est fortement subventionnée par l'État. C'est crucial pour maintenir la paix sociale.
Oui. Le pain abordable est une base non négociable.
Donc, en jetant ce pain, on réalise qu'on subventionne littéralement les décharges publiques. La perte financière, la revue l'évalue à 1 milliard de dollars par an, juste pour cette filière spécifique du blé subventionné.
1 milliard de dollars jetés par la fenêtre, exactement.
Mais le pire, le vrai cauchemar, c'est le coût écologique. La revue mentionne 1,6 milliard de mètres cubes d'eau perdus annuellement pour produire cette nourriture qui finit par pourrir. Enfin, 1,6 milliard, c'est abstrait. Imaginez qu'on mobilise des efforts surhumains pour remplir un des plus gigantesques barrages d'eau douce du pays. Une ressource inestimable. Et qu'ensuite, on ouvre les vannes en grand et on laisse toute cette eau se déverser directement dans le sable d'une décharge publique. C'est exactement ce que ça représente.
C'est une image terrible, mais tellement vraie. Ce qui est fascinant ici, c'est la dissonance cognitive que cette situation révèle. D'un côté, on a la souveraineté alimentaire qui est érigée en priorité absolue, c'est une question de sécurité nationale.
C'est clair.
Et de l'autre, on observe une véritable hémorragie, une destruction massive de valeur dans toute la chaîne d'approvisionnement. Mais attention, le rapport du CESE fait une distinction cruciale. Il ne faut pas juste jeter la pierre aux consommateurs.
Oui, il y a une nuance très importante. Il faut séparer les pertes en amont et le gaspillage en aval. Les pertes en amont, c'est ce qui n'arrive même jamais jusqu'au marché, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça. En amont, on est face à un échec systémique de l'infrastructure agricole. Le rapport nous dit qu'entre 20 et 40% des fruits et légumes pourrissent avant même d'atteindre les étals.
40%, c'est gigantesque. Mais comment c'est possible?
La cause principale, c'est le manque de logistique. Et surtout l'absence cruelle d'une chaîne du froid intégrée. Le tissu agricole est souvent composé de petits producteurs. Ils n'ont pas les moyens d'investir dans des chambres froides à 50 000 $ ou dans des camions réfrigérés.
Ah, je vois.
Donc ils récoltent, la marchandise attend en plein soleil et la dégradation commence tout de suite. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque d'infrastructure.
C'est d'une tristesse absolue. Le producteur fait tout le travail, il épuise la terre, il utilise de l'eau rare, son énergie, et la moitié de sa récolte meurt sur le bord de la route par manque de camions réfrigérés. Et ensuite, une fois que ce qui survit arrive en ville, là on passe à l'aval.
Voilà. L'aval, c'est la grande distribution et les ménages. C'est là qu'on retrouve les normes esthétiques absurdes des supermarchés. Vous savez, refuser une pomme parce qu'elle n'est pas assez ronde ou assez brillante.
Bah oui, le fameux calibrage parfait.
Exactement. On y ajoute la mauvaise compréhension des dates limites de consommation, les achats compulsifs des ménages, et il y a aussi un gros vide juridique qui empêche les supermarchés de donner facilement leurs invendus aux associations, pour des raisons sanitaires.
C'est le serpent qui se mord la queue, mais il y a des solutions proposées par le CESE, n'est-ce pas ?
Oui, heureusement. Il propose une loi anti-gaspillage stricte qui pénaliserait la destruction des invendus. Des subventions massives pour aider les zones rurales à s'équiper en chaînes du froid et une vraie stratégie nationale.
Le lien de cause à effet est implacable. Parce que pour résoudre ce stress hydrique qui est aggravé par le gaspillage, il faut trouver de nouvelles sources d'eau potable. Et la solution toute trouvée, c'est le dessalement de l'eau de mer.
Tout à fait, c'est la voie privilégiée.
Sauf que ces usines de dessalement, ce sont des gouffres énergétiques colossaux. Et c'est ce qui nous amène à un pivot monumental dans ce numéro d'E-Week. Le retour de l'atome. On apprend que des études de faisabilité sont très sérieusement relancées pour intégrer l'énergie nucléaire civile au Maroc.
Ah, le nucléaire. C'est vraiment le nœud gordien de l'équation énergétique moderne. Parce que la question, c'est comment soutenir une croissance démographique, une industrialisation super rapide, faire tourner des usines de dessalement, et tout ça en sortant du charbon pour décarboner l'économie ?
Alors, attendez. Je dois faire une pause ici pour poser la question qui brûle les lèvres de tous ceux qui suivent ce dossier. Le Maroc, il est déjà mondialement reconnu pour ses méga-projets d'énergie renouvelable. On pense à l'immense complexe solaire Nour, au parc éolien.
Oui, c'est un leader régional là-dessus.
Alors pourquoi diable envisager le nucléaire civil en 2026 ? N'est-ce pas chercher des complications incroyables alors qu'on a tellement de soleil ? Pourquoi ne pas simplement rajouter plus de panneaux ?
C'est une réaction très naturelle de penser ça. Mais si nous relions cela à la situation globale et tout bêtement aux lois de la physique, la réponse devient d'un pragmatisme absolu. Le grand talent d'Achille du solaire ou de l'éolien, c'est l'intermittence.
Le vent s'arrête, le soleil se couche.
Exactement. La nuit tombe, les nuages passent. Or, on ne peut pas dire à une gigantesque usine de dessalement de s'arrêter de produire de l'eau à 20 h sous prétexte qu'il fait nuit.
C'est sûr.
Une industrie lourde, ça a besoin d'une énergie de base pilotable. En anglais, on appelle ça le base load. C'est une puissance électrique qui doit être disponible 24 h/24, de manière prévisible et sans émettre de CO2. Et le nucléaire, il répond parfaitement à ce cahier des charges.
D'accord, je comprends le besoin de stabilité énergétique. Mais quand on dit nucléaire, on imagine tout de suite ces immenses centrales titanesques qui coûtent des dizaines de milliards, qui prennent 15 ans à construire, avec des retards perpétuels.
Ah, mais c'est justement là que la technologie a complètement changé la donne. La stratégie marocaine ne vise pas ces vieux monstres. Elle s'oriente vers les SMR, les Small Modular Reactors, ou petits réacteurs modulaires en français.
C'est quoi la différence fondamentale ?
C'est une révolution industrielle. Au lieu de construire un réacteur sur mesure sur un chantier énorme avec tous les aléas possibles, on fabrique ces petits réacteurs en série dans une usine. Un peu comme on assemblerait des voitures ou des avions de ligne.
Et où les livre clé en main ?
Voilà, on les transporte par camion spécialisé ou par train directement jusqu'au site d'exploitation.
Donc c'est vraiment la standardisation de l'usine qui fait chuter les coûts et les délais.
Exactement. Ils sont beaucoup plus flexibles, l'investissement de départ est beaucoup moins effrayant. Et surtout, ils ont des systèmes de sécurité dits passifs. C'est-à-dire qu'en cas d'urgence, ils utilisent la simple gravité et la convection naturelle de l'eau pour se refroidir sans qu'un humain n'ait besoin d'intervenir.
C'est fascinant. Mais j'imagine que les défis restent gigantesques pour un pays qui n'a pas cette filière historiquement.
Oh oui, les défis sont colossaux.
La source mentionne notamment l'obligation absolue de mettre en place un cadre législatif extrêmement strict sous la supervision de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique.
C'est incontournable.
Sans compter le défi du capital humain. Il va falloir former des armées entières d'ingénieurs et de techniciens qualifiés. Et puis, il y a l'éléphant dans la pièce, l'acceptabilité sociale. Le mot nucléaire fait toujours peur.
C'est un test de maturité institutionnelle grandeur nature. Adopter le nucléaire, même avec des petits réacteurs, c'est signer un contrat de confiance. Ça exige un niveau de stabilité politique, de transparence et de sécurité intérieure absolument irréprochable sur le très long terme.
Et curieusement, cette notion de stabilité, c'est exactement ce que le monde entier remarque en ce moment. Ce qui nous fait basculer vers notre troisième partie. C'est l'illustration parfaite de la complexité de cette nation. D'un côté, on a la sécurité macroéconomique perçue à l'international, et de l'autre, les frictions microéconomiques à l'intérieur.
Le fameux grand écart.
Exactement. Parlons d'abord de la vue de l'extérieur. Le site spécialisé HelloSafe vient de classer le Maroc comme le pays le plus sûr d'Afrique pour les voyageurs en 2026. Il rentre même confortablement dans le top 50 mondial.
C'est une performance majeure.
Oui, et ce n'est pas le fruit du hasard. Ce sont des brigades touristiques spécialisées, une coordination des forces de l'ordre très stricte, une stabilité politique. La revue cite même un think tank français qui met en lumière cette montée en puissance stratégique globale, sans parler du dynamisme du patronat avec les élections de la CGM. C'est un peu comme observer un cygne majestueux glisser sur un lac.
J'adore cette image. Vu de la rive, de l'international, le cygne glisse avec une grâce absolue. C'est le calme plat, la tranquillité. Et c'est vital, parce que cette image de sécurité, c'est ce qui attire les devises, les investisseurs et un tourisme de luxe et familial très exigeant.
C'est la vitrine, mais sous l'eau.
Ah, sous l'eau, les pattes du cygne pédalent à une vitesse folle.
Voilà, le pays bouillonne de l'intérieur. La revue consacre par exemple un long passage à une grève nationale d'envergure, celle des Adouls, du 18 mars au 5 avril 2026, avec une grosse manifestation devant le Parlement le 2 avril.
Cela soulève une question super importante sur la nature même de la modernisation d'un pays. Pour ceux qui l'ignorent, les Adouls, ce sont des professionnels de la justice, des notaires de droit traditionnel. Leur rôle est ancré au plus profond de la société depuis des siècles.
Ils s'occupent de tout ce qui touche à l'état civil.
Exactement. Et s'ils sont en grève, c'est à cause d'un projet de loi, le projet 1622, qui vise à encadrer et moderniser leur profession. C'est le choc classique. On modernise l'État qui se heurte aux prérogatives traditionnelles. Le législateur veut standardiser, numériser, et ça bouscule forcément des acquis historiques.
Et les conséquences d'une telle grève, c'est pas juste symbolique. On parle de la paralysie totale des mariages, du blocage complet des transactions immobilières, du gel des actes d'héritage. C'est le quotidien des citoyens qui est mis sur pause.
C'est le prix inévitable quand on met à jour le logiciel sociétal d'un pays. C'est littéralement comme essayer de changer le système d'exploitation d'un ordinateur pendant que quelqu'un est en train de l'utiliser.
Belle comparaison.
Le fait qu'il y ait des grèves, des désaccords, des manifestations pacifiques, ça prouve qu'il y a un vrai dialogue interne. C'est la preuve d'une société civile vivante. Derrière l'image lisse de la sécurité extérieure, il y a la friction complexe de la démocratie et des débats de fond.
Et cette richesse générée par la stabilité macroéconomique, elle permet justement de financer tout le reste, la jeunesse, la culture et l'adaptation technologique. Et là, on rentre dans un panorama que le magazine brosse qui donne un peu le vertige sur la notion du temps.
Oui, il y a un contraste temporel saisissant dans ces pages.
D'un côté, on a l'ancrage fort dans le présent. Le grand programme d'estivage 2026 est lancé, avec 200 000 jeunes bénéficiaires, deux nouvelles colonies de vacances à Tagazout, un nouveau portail national pour les animateurs.
Des investissements concrets pour la jeunesse.
On a aussi le stade Prince Moulay Abdellah qui vient d'être élu meilleur stade du monde 2025 par Stadium Dibi. Et bien sûr, la structuration spirituelle du présent, avec l'annonce de la fin du mois de Ramadan de 30 jours, fixant l'Aïd al-Fitr au samedi 21 mars.
Ce sont les repères vitaux d'une société qui avance.
Mais ici, ça devient vraiment intéressant. Comment fait-on pour digérer intellectuellement la page suivante ? On nous annonce que des chercheurs ont découvert à Figig les restes uniques d'un dinosaure de 100 millions d'années.
C'est vertigineux, oui.
Et ils ont aussi identifié le Pluridensa imelaki, un terrible prédateur marin qui régnait il y a 66 millions d'années. Et juste en face, dans la même revue, on est propulsé dans le futur le plus fou. Huawei atteint 170 millions d'utilisateurs connectés dans plus de 80 pays. Et Apple préparerait des AirPods Pro Ultra, équipés de caméras infrarouges pour contrôler nos appareils en faisant de simples gestes dans le vide.
C'est la définition même de l'année 2026. L'humanité est capable de sonder le passé géologique le plus lointain grâce à la technologie même qui façonne notre futur ultra-connecté. C'est avec des capteurs de pointe et des bases de données qu'on identifie un monstre marin de 66 millions d'années, tout en portant des écouteurs qui liront nos mouvements dans l'air.
Et au milieu de tout ça, de cette frénésie de découverte, la revue fait un choix éditorial très intéressant. Elle insère des brèves géopolitiques mondiales, de manière brute.
Sans aucun commentaire, oui.
Sans aucun commentaire. Je précise d'ailleurs pour notre audience que nous nous contentons ici de relayer strictement les événements cités par la source, sans prendre parti d'un côté ou de l'autre. La revue mentionne factuellement la mort d'un militaire français lors d'une attaque au Moyen-Orient et des frappes ukrainiennes ciblant une usine militaire russe à Briansk.
Cette neutralité dans la mise en page agit presque comme un électrochoc.
Exactement.
Face à ces lignes toutes froides sur des conflits armés dévastateurs, on comprend d'autant mieux la valeur inestimable de cette fameuse stabilité locale dont on parlait au début. Le monde extérieur est d'une volatilité extrême.
Ce qui nous permet de tisser le fil rouge de toute notre analyse aujourd'hui. On a fait un voyage incroyable à travers ces pages. On est parti de notre corbeille à pain, avec ses 40 millions d'unités jetées et l'eau gaspillée. On a traversé des réacteurs nucléaires modulaires pour faire tourner des usines de dessalement.
On a observé la friction d'une grève des notaires traditionnels face à la loi de modernisation.
Pour finalement atterrir au carrefour entre des dinosaures marins et des écouteurs futuristes.
Aucun de ces sujets n'existe en vase clos. L'énergie dicte l'agriculture, qui dépend des infrastructures, elles-mêmes financées par la sécurité et la stabilité du pays.
Et pour conclure, j'aimerais qu'on réfléchisse à un concept qui pourrait relier notre point de départ à notre point d'arrivée. On a parlé du fait que 20 à 40% des aliments pourrissent avant d'arriver au marché, faute de logistique.
Le fameux problème de la chaîne du froid en amont.
Voilà. La réponse classique, c'est de faire une loi anti-gaspillage. Mais et si la solution venait des technologies dont on vient juste de parler ?
Ah, utiliser l'intelligence artificielle pour l'agriculture !
Absolument. Si des entreprises peuvent connecter 170 millions d'appareils instantanément, et si des écouteurs peuvent anticiper nos gestes dans le vide, pourquoi ne pas utiliser ces intelligences artificielles prédictives pour orchestrer la chaîne du froid ?
C'est-à-dire prédire le moment exact de la récolte.
Oui. Croiser les données météo, la maturation des fruits, la géolocalisation des camions frigorifiques disponibles. Le camion arriverait au champ exactement quand le fruit est prêt, avant que la chaleur ne le détruise. La donnée informatique pourrait devenir le meilleur conservateur alimentaire de demain, comblant les trous de nos infrastructures physiques.
C'est une pensée très provocante, mais géniale. Transformer une perte matérielle en une optimisation algorithmique pure, c'est peut-être là que se trouve la vraie souveraineté moderne.
De quoi bien faire bouillonner les cerveaux de ceux qui nous écoutent. La prochaine fois que vous verrez une simple corbeille à pain, dites-vous qu'elle renferme des histoires de barrages géants, de réacteurs nucléaires et peut-être même d'algorithmes prédictifs. Merci de m'avoir accompagné, mon cher expert, pour cette plongée fascinante.
Merci de m'avoir invité. C'était un vrai plaisir de décortiquer tout ça avec vous.
Gardez votre curiosité en éveil. Continuez à repenser l'information qui vous entoure. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration approfondie. À bientôt!